D'abord, que je vous dise qu'on ne risque rien à livrer le secret professionnel, puisque on ne livre pas le moyen de s'en servir.
Secret professionnel par Charles Danzy. Fondations, festivals, musées, grandes expositions, la France, c'est connu, a remplacé la religion par la culture. Les queues à l'entrée des grandes expositions font office de procession de la Saint-Jean, photographier la Joconde avec son téléphone portable, vaut génuflexion devant une statue de la Vierge. Bien des musées l'ont compris, qui ont transformé certaines œuvres en icônes et créé des parcours fléchés permettant de les retrouver plus vite. Le Louvre, par exemple. D'icônes, on passe vite à fétiches, à la fétichisation de l'art qu'on ne regarde plus mais qu'on vénère. Il est vrai que les Français sont un peuple irréligieux, malgré tout les fantasmes d'un vieux catholicisme revanchard qui croyait pouvoir faire les élections et qu'ils passent devant la Joconde avec autant d'indifférence qu'ils vont à la messe. Une fois que c'est fait, on se rend à la pâtisserie et on peut regarder la télévision. Les autres continuent à faire ce qu'ils ont toujours fait, regarder sérieusement de l'art. Pour cela, en dehors des galeries et des collections permanentes des musées, il y a les fondations. Ce sont, si je ne me trompe pas, des personnes morales de droit privé qui remplissent une mission de service public. Elles sont apparues aux États-Unis, où l'on connaît les fondations Barnes et Phillips, qui ont du reste voyagé en France. Je me souviens de la première exposition des œuvres de la Fondation Barnes à Paris. C'était en 1993, au musée d'Orsay. Quelques-uns des grincheux du moment avaient protesté contre ce qu'ils jugeaient être un dévoiement d'un musée français, une invasion américaine, etc., etc. La bêtise du nationalisme a ceci d'avantageux qu'elle crie très fort et se signale à l'intelligence du monde qui peut ainsi hausser les épaules. Une des plus anciennes fondations de France est la Fondation Mag à Saint-Paul-de-Vence, qui a ouvert en 1964. Elle a une collection remarquable de Braque et de Giacometti, entre autres, et reçoit autour de 200 000 visiteurs par an. La plus récente est la Fondation Vuitton, qui ne nous a jusque-là pas éblouis par ses choix ni par son audace. Elle est sans doute d'ailleurs une des nombreuses démonstrations de ce que nous sommes revenus en 1954. La seule de ces expositions qui était vantée par la critique et suivie par le public est celle de collectionneurs russes de 1900, Sigi la modernité. Toutes les fondations ne manquent pas d'imagination. À Paris, la Maison Rouge, depuis 2004, propose des artistes qu'on ne voit pas partout, les montre souvent de manière originale et a mis dans la ville quelque chose de parallèle et de singulier. Quel est le secret professionnel de la Maison Rouge? Je reçois donc pour en parler Antoine de Galbert, qui l'a fondée et la dirige. Antoine de Galbert, vous avez été sauf erreur galeriste à Grenoble.
Oui.
Vous vendiez de l'art.
J'essayais de vendre.
De l'art contemporain. En quoi c'est facile ou difficile de vendre de l'art contemporain à Grenoble? Est-ce qu'on n'est pas obligé d'y vendre des équivalents Yves Breyer contemporains?
Non, parce que c'était très difficile, mais en plus c'était dans les années où la première grande crise, vous savez, 90, la guerre du Golfe, tout ça. Donc c'était assez difficile. Mais en fait, je vendais très peu dans la ville et je vendais un petit peu en dehors, mais je vendais très très peu. C'est-à-dire que c'était mes années d'apprentissage que je regrette pas, qui étaient indispensables pour moi. Mais je suis très vite devenu mon plus gros client. Vous voyez, donc c'est pour ça que j'ai arrêté au bout de quelques années. Pour partir, pour aller ailleurs.
Vous êtes grenoblois?
Oui, je suis né à Grenoble, oui.
Alors, quand on lit les entretiens que vous donnez, on croit comprendre que vous venez d'une famille aisée, et on dirait que vous êtes gêné de cet argent, que vous ne voulez pas en parler, ou que l'art, peut-être, serait une forme d'expiation de cet argent.
Non, j'ai aucune culpabilité, mais si vous voulez, je pense que, compte tenu de tout ce que je fais, j'ai pas besoin de décrire l'origine de tout ça, et je pense fondamentalement qu'il faut de l'argent pour être dans l'art, pour rentrer en art, peut-être même pour être artiste d'ailleurs. Il faut de l'argent pour être libre, mais l'argent est nécessaire, donc, mais pas suffisant. L'argent est indispensable, mais pas suffisant. Et on vit une époque où il y a une collusion excessive entre les grandes fortunes et l'art, ce que vous venez de dénoncer d'ailleurs en introduction, et c'est ça que je veux. Mais évidemment que j'ai eu un peu d'argent, j'ai eu cette chance, et tant mieux. L'intérêt, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on réalise. C'est ce qu'on fait avec l'argent quand on en a.
Quand vous dites qu'il faut de l'argent pour être artiste, comment vous dites
non,
ça?
Non, j'exagère, mais ce que je veux dire, c'est que le monde de l'art est en perpétuelle demande, et le monde des artistes est très difficile, c'est très difficile d'être artiste. On a à tout moment besoin d'argent pour survivre, pour vivre, pour acheter des choses. Donc c'est une manière de dire, que de toute façon, il n'y a pas d'art sans argent. C'est un mariage historique depuis des siècles et des siècles. Et voilà, il faut simplement l'approcher, l'aborder et le vivre le plus intelligemment possible.
D'ailleurs, il n'y a probablement pas d'art non plus sans vulgarité. Je ne veux pas dire la vulgarité de l'art, mais la vulgarité de certains acheteurs très riches, on a besoin de ça. Je ne pense pas que les premiers Médicis aient été des gens très raffinés.
Je pense que si. Quand même. Oui, je pense qu'ils étaient plus que... Alors ça c'est un truc très, très important parce que finalement, vous parliez des fondations, de la culture privée, si ça a un sens de dire ça. Il y a toutes sortes de profils. Il s'agit souvent de gens qui ont beaucoup travaillé et qui sont des gens formidables sur le plan du business, etc., qui ont pas nécessairement, qui pleurent pas nécessairement devant un Rembrandt. Vous voyez ce que je veux dire?
Vous parlez des acheteurs, là?
Je parle des gens... du pouvoir culturel privé. Et donc, il y a toutes sortes de cas de figure. Moi, c'est un peu différent, parce que d'abord, je suis pas un milliardaire comme ceux dont on parle. Et puis, en plus, c'était mon métier. C'est-à-dire qu'à 30 ans, avant 30 ans, je faisais autre chose et je regardais de la peinture tout le temps. Et à partir de 30 ans, j'ai ouvert une épicerie. Ce que je veux dire, c'est une boutique, hein, une galerie, ce que je veux dire. Et depuis lors, depuis plus de 30 ans, je ne fais que ça. Donc, il se trouve que j'ai eu 3 sous. Et cet argent m'a permis de continuer à développer ma passion et à réaliser ce que j'aurais rêvé de réaliser avant.
Mais est-ce que vous auriez voulu être artiste?
Oui, j'aurais aimé, mais j'aurais aimé être Rembrandt pour une fois de plus, ou j'aurais pas aimé être Buren, vous voyez. J'aurais aimé être un artiste d'autrefois. J'aurais pas aimé être un artiste contemporain. C'est trop complexe pour moi, c'est trop... J'aurais aimé être dans un savoir-faire. J'aurais aimé avoir des mains intelligentes et habiles, mais voilà, je suis fasciné par ce... Mais au fond, non, je crois pas.
Alors, vous avez ouvert en 2004, vous avez d'ailleurs annoncé récemment que vous fermeriez en 2018. Quelle était l'idée au départ? C'était faire connaître votre collection? C'était...
Pas du tout. En fait, c'était le prolongement de ma vie... d'avant, c'est-à-dire que j'ai eu une galerie, puis après, très vite, le commerce ne m'intéressait pas, enfin, j'en avais pas en plus réellement besoin. Donc c'est le prolongement de ce que j'ai fait avant, simplement, je suis venu à Paris pour le faire, et donc j'ai fait quasiment la même chose, mais de manière plus visible et plus communicante, et avec plus de moyens, puisqu'entre temps, j'ai eu quelques moyens de famille.
Et sans vendre.
Mais c'est la même vie. Ah non, sans vendre, non. Mais c'est la même vie, c'est la même passion. De toute façon, j'aurais pas eu ces moyens-là, j'aurais fait autre chose, mais je me serais... resté dans l'art, comme on dit.
Si vous êtes passionné, vous l'auriez fait même sans un sou, non?
Oui, voilà, c'est ça, j'aurais fait autre chose, mais...
Alors, vous vous êtes installé dans une ancienne usine, je crois, et est-ce que vous ne diriez pas que les institutions artistiques modernes, privées en général, qui s'installent comme ça, dans d'anciennes usines, des entrepôts ou des locaux industriels, ont contribué, c'est pas tout à fait annexe, à sauvegarder une espèce d'architecture méprisée?
Je sais pas, parce qu'on est quand même pas très nombreux. En revanche, il y a des réhabilitations, pas seulement dans le monde des expositions, mais il y a des entreprises qui rachètent des... donc oui, certainement, mais c'est très peu lié aux expositions.
Enfin, c'était par hasard, vous avez choisi une usine pour chercher un emplacement?
Non, moi c'est par hasard, et puis c'est surtout c'était un cadeau de trouver 2500 m² à la Bastille, c'est quand même inouï.
Qui était votre architecte qui a refait
C'est un architecte et ami qui s'appelle Jean-Yves Clément, qui est un architecte de ma ville natale, de Grenoble.
Quelle était l'idée dans la dénomination Maison Rouge?
Aucune particulièrement.
Vous n'êtes pas un post-maoïste?
Non, encore que j'aime bien ces petites insolences, mais non, pas du tout. Et c'est que j'étais avec je ne sais plus qui, m'a dit, tiens, tu devrais peindre cette maison en rouge. Et voilà, tout simplement. Alors après, j'ai trouvé plein de raisons très intelligentes pour l'expliquer, mais initialement, il n'y a aucune raison.
Est-ce que vous avez obtenu une moindre aide publique, par exemple de la ville de Paris? Je voudrais en profiter dans la période populiste où nous vivons pour rappeler que la culture n'est pas une dépense extravagante. Le budget annuel de Paris, c'est 8 milliards d'euros et la ville de Paris alloue 1 million par an pour ses acquisitions, donc c'est pas...
En fait, j'ai jamais demandé d'aide, donc il n'y a aucune raison que j'en ai. La ville de Paris est simplement dans mon conseil d'administration. Elle est amicalement présente, mais je n'étais pas du tout obligé de lui demander. Et l'État encore moins, mais l'État est présent pour vérifier que je respecte bien l'utilité publique qui m'a été accordée par décret. Mais non, j'ai aucune aide, mais en fait, j'avais pas envie d'en avoir. Je voulais prouver qu'on pouvait faire quelque chose, qu'une position subjective, aussi bien d'ailleurs financière que culturelle, pouvait avoir une petite chance d'exister dans le domaine public, oui, dans l'espace public. Et on y est arrivé.
Vous avez combien de visiteurs par an?
Franchement, on frôle les 100 000. Ce qui est beaucoup, parce que d'abord, morphologiquement, on n'est pas très grand. Donc 100 000, je veux dire qu'un dimanche, quand il y a 2 000 visiteurs, c'est limite.
Et puis, oui, il faut dire qu'une exposition qui marche beaucoup à Pompidou, c'est 5 000 personnes et c'est beaucoup plus grand.
Voilà, c'est 5 000 par jour. Oui, c'est ça. Donc quand on fait 1 000 ou 1 200, c'est énorme. Hein. Et puis par ailleurs, on a des expositions et des choix qui ne sont pas nécessairement... Moi, j'ai toujours voulu faire ce que j'aimais. Je me suis jamais soucié que les gens suivent ou pas. Alors, il y en a une dont je m'étais occupé vraiment personnellement au début des premières années. C'était une exposition d'Augustin Lesage.
Qui est Augustin?
Qui est un artiste de l'art visionnaire, de l'art brut. C'était une sorte de spirit du début du XXe siècle, qui était mineur. Et on l'avait confronté à un artiste contemporain viennois. Enfin, pas viennois, autrichien, qui s'appelle Trinkwalder. Et l'association de ces deux œuvres était extraordinaire. Le volume était parfait dans les salles, le contenu. Et je pense que c'est l'expo où on a eu le moins de monde. J'étais absolument effondré. C'était les premières années de la Maison Rouge. Je me suis dit, il y a du travail parce que...
Mais les gens peuvent acheter le catalogue, car il faut dire aussi que vous faites un travail.
Il est épuisé. Oui.
Mais ça fait partie aussi de vos travaux, c'est-à-dire
bien
que
sûr.
Chaque exposition est aussi...
Alors il faut parler de l'équipe, hein, parce que c'est quand même... c'est l'équipe qui fait la Maison Rouge, et entre autres au niveau des catalogues, il faut un travail formidable, on fait un catalogue par expo. Parfois il y a deux expos au même moment, donc il y a deux catalogues.
Oui, et vous avez un rythme soutenu d'exposition chaque année.
Trois par an. Trois événements par an. Donc c'est soit une grande expo thématique en ce moment, avec l'esprit français qui prend toutes les salles, soit deux expositions.
Moi, ce que je trouve, c'est que vous avez apporté quelque chose d'assez nouveau dans Paris, dans l'endroit, dans votre manière de montrer. Mmh. Et j'ai plutôt tendance à penser que la période est devenue très conservatrice et très popote, si je puis dire, avec voilà, du Picasso érotique ou du Salvador Dali.
Un peu inféodé à la mode et à l'argent. Quoi. Il y a quand même beaucoup de pollution. Et puis, c'est devenu un peu le costume, c'est devenu un peu l'accastillage, quand on réussit, il faut collectionner, quoi. Vous voyez, il faut retrouver un peu de passion et un peu de... Je suis pas un gauchiste, je veux pas dire que c'est parce qu'on a de l'argent qu'on est un crétin, loin de là. Mais il faut essayer de retrouver de la sincérité et de pas faire comme tout le monde, quoi.
Est-ce qu'un des succès de telle ou telle de vos expositions a amené des achats dans des collections publiques?
Moi, je suis un petit peu modeste ou timide de nature, mais là, il faut quand même dire les choses, c'est que la Maison Rouge est devenue très souvent initiatrice. Et il n'y a pas une de nos expos qui génère pas des ventes. Par exemple, moi, je ne vends pas, évidemment. Mais parfois, les artistes sont dans des galeries. Enfin, je suis au courant de tout. Et puis, je suis moi-même collectionneur. Et il y a des tas d'artistes qu'on a vus ensuite au Palais de Tokyo, qu'on a vus dans la Biennale de Venise. Donc, on a quand même défriché.
Donnez-nous des noms, Antoine de Galbert.
Je sais pas. Par exemple, Berline de Brucker qui avait le pavillon belge à Venise. Céleste Boursier-Mougenoux, le pavillon français. Tout ça, c'est les gens qu'on a montrés.
Est-ce que vous organisez vous-même toutes les expositions ou est-ce que vous embauchez les commissaires? Comment est-ce que ça se
passe? Alors, il n'y a pas de règles. Dans l'ensemble, c'est moi qui programme. Avec ma directrice Paula Eisenberg, on discute beaucoup, donc elle a aussi son mot à dire, mais statutairement, c'est moi qui programme. Et ensuite, il y a tous les cas de figure. On peut soit travailler avec des commissaires, comme actuellement, pour l'Esprit français, on travaille avec deux commissaires. Soit on peut faire les expos nous-mêmes, ou quand je dis nous-mêmes, c'est toute l'équipe. Ou c'est moi-même, ou c'est Paula, ou c'est... Donc en fait, il n'y a pas de règle.
Nous allons maintenant entendre André Chanson, l'écrivain, qui s'entretient avec Georges Charansol à l'occasion de l'exposition internationale de la gravure. Il parle en particulier de l'accrochage des œuvres, et c'est la date du 14 mai 1949.
L'inauguration de l'exposition de la gravure internationale au Petit Palais a été, je le dis, sans modestie, un succès. Un succès parce que les Parisiens, en cette journée de printemps, qui semblait être la première journée de printemps, ont eu l'air enchantés par ces successions de gravures qui décorent à l'heure actuelle les cimaises de notre musée. Pour ajouter à cet enchantement et pour, dans une certaine mesure, permettre que chaque gravure puisse être regardée comme doit l'être une gravure, c'est-à-dire dans sa solitude et son autonomie. Nous avons césuré l'exposition par grande masse d'abord, en groupant les pays d'outre-mer que séparent de la France les galeries Dutuy, puis la France elle-même séparée par les galeries Tuck de l'ensemble des pays d'Europe. Et à l'intérieur de chaque pays, nous avons césuré les panneaux par des socles qui portent des vases qui ont été ornés de fleurs par les soins des fleuristes parisiens. Et je crois que cet ensemble, où la gravure domine et reste la pièce essentielle et substantielle, mais où l'objet d'art, la gravure ancienne et le décor floral, l'enchantement de ce décor printanier se mêlent, a créé une atmosphère à laquelle les Parisiens ont été sensibles. Et j'ai l'impression que, pour aussi glorieuses que furent les expositions de la Pinacothèque et des Trésors de Vienne, l'exposition de la gravure internationale, plus difficile d'accès, a été aujourd'hui un succès auprès du public parisien.
Antoine de Galbert, vous l'avez évoqué dans la première partie de ce secret professionnel, vous venez d'ouvrir une exposition sur l'esprit français qui en réalité n'est pas une exposition sur l'esprit français, enfin pas ce qu'on entend habituellement, on n'y voit pas d'extrait de film de Sacha Guitry.
Oui, mais enfin on voit une extrait de l'émission de Michel Pollack, on voit des choses, on voit Jean-Christophe Averty, on voit des tas de choses qui sont très typiques quand même de cette année. Il faut dire que c'est les années 69-89, donc les cendres de mai 68, la déception, l'après 68, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Finalement, ça, c'était le mur de Berlin, n'était pas dans l'esprit des commissaires, mais malgré tout, c'est quand même une date extrêmement importante.
Vous faites beaucoup d'expositions politiques, si je puis dire.
Non, pas tellement. Non. Pas tellement. Moi, j'aime la politique. J'ai quand même fait Sciences Po et j'aime parler politique, mais je suis totalement mouvant. Je change d'avis toutes les 3 heures, donc j'ai absolument pas d'engagement politique ferme et clair. Mais il se trouve quand même que là, on vit une période tellement médiocre. Et médiocre aussi bien qu'on soit de droite ou de gauche. C'est-à-dire que c'est pour une fois, parfois il y a des périodes médiocres à gauche ou médiocres à droite. Là, c'est général. C'est-à-dire qu'on est paumé. Et cette exposition arrive à point nommé, comme on dit, hein. Parce que il y a un besoin de révolte, quoi. On en a marre.
Et un besoin de rire aussi, parce que vous trouvez pas.
Et un besoin de rire parce qu'il nous faut marrer.
Oui, c'est ça.
Et alors, avec quand même des risques énormes de populisme divers et variés, on est quand même dans une période où toute ce vent de révolte, même s'il est parfois drôle, il est pas toujours drôle, est redevenu nécessaire.
Je voudrais, dans cette deuxième partie d'émission, revenir sur une exposition et aussi sur un artiste que je trouve insuffisamment connu du grand public et que vous avez montré à la Maison Rouge, c'est Louis Souter. Alors, est-ce que vous pouvez me dire qui c'est ce Louis Souter?
Souter, quand même, quand vous dites qu'il n'est pas connu, il est quand même, l'œuvre a été défendue par des immenses marchands, entre autres Carsten Greve, qui a une galerie, entre autres, à Paris. Et c'est quand même, les œuvres, les peintures au doigt de Louis Souter se négocient en Suisse, et surtout en Suisse, et aux alentours des 500 000 euros. Donc,
non, c'est du public, c'est du grand public.
Le grand public ne le connaît pas, mais le grand public, ça n'a jamais été un critère. En fait, ils connaissent Jeff Koons, mais vous voyez, ils ne connaissent pas Hans Bellmer, quoi. Donc, c'est quand même, chez les gens cultivés, c'est quelqu'un de très connu, Louis Souter.
Alors, dites-moi qui c'est.
Alors, Louis Souter, c'était un violoniste, prof de violon, amateur de littérature, de dessin, etc. Assez cultivé.
Suisse.
Qui est parti vivre aux États-Unis, qui a eu des mésaventures là-bas. Et il est revenu vivre en Suisse. Il a eu quelques dérangements psychologiques. Sans être interné, malgré tout, il a fini sa vie dans une maison de vieux, comme on dit.
Un hospice.
Mais voilà, c'était pas un type qui était enfermé. Bon, il était un peu dérangé quand même. Et il s'est mis à faire des œuvres absolument inouïes. Donc d'abord, plus ou moins classiques, il s'est mis à recopier tout le dessin académique du 18e, 19e. Et ensuite, il s'est mis à faire des peintures. Et c'est là que moi, je l'avais découvert il y a 25 ou 30 ans. Et alors ça, c'est intéressant que vous me questionniez sur cet artiste, parce que à l'époque, quand j'avais ma petite galerie et que j'avais pas les moyens de faire ce genre d'exposition qui était déjà réservée à des musées, je rêvais de faire Souter. Et donc, le fait d'accéder et de créer une fondation, ça m'a permis aussi de faire des choses que j'ai pas pu faire avant.
Parce qu'il faut dire que vous pouvez emprunter.
ben, on peut emprunter, on peut, et c'est ça finalement qui me différencie d'un capitaine d'industrie un peu neuf qui va confier ses expos à des jeunes curateurs. Vous voyez, c'est que moi quand j'ai ouvert, je savais tout ce que j'allais faire.
Il faut que je dise, Antoine de Galbert, les dates de Souterre, c'est 1871-1942.
Mais surtout, il faut voir ces dernières peintures, parce que là, c'est vrai que j'ai pas beaucoup préparé l'émission sur Souterre, mais j'ai des souvenirs d'une salle immense où on avait 25 peintures au doigt, et les peintures au doigt, c'est ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Il avait sans doute un problème de vue, et il peignait avec ses doigts, comme ça, des crucifixions, des choses. C'est absolument prodigieux, quoi. C'est tout le monde... obligatoirement est ébahi par ce sont des crises coréennes sous les yeux. Quoi.
C'est ce qu'on appelle de l'art brut.
Alors, il y avait un débat sur Souterre. La commissaire de l'époque avait essayé de le sortir de l'art brut. Vous savez, l'art brut, c'est un terme, encore faudrait-il le redéfinir à chaque fois.
C'est du Buffet qui a...
On a fait ensuite une exposition très récemment de Eugène Gabrychewski, qui était dans ce même type de profil, très cultivé, parlant plusieurs langues. Est-ce que c'est de l'art brut? Non.
Une des expositions les plus frappantes pour moi chez vous, à la Maison Rouge, ça a été Le Mur en 2014, et vous avez eu une manière nouvelle d'accrocher les œuvres. Depuis le début des années 70, on vit beaucoup, surtout dans les galeries, sur le principe du white cube, c'est-à-dire une espèce de maximalisme dans le minimalisme, où on a des tableaux désencadrés, un par pan de mur immense, et vous avez montré tout à fait différemment. Voulez-vous m'expliquer ce que c'était ?
En fait, d'abord, c'était les 10 ans de la Maison Rouge, donc c'était un peu une fête. Et je voulais marquer le coup et montrer une partie de ma collection, puisque finalement je l'ai très peu montré. Et alors, comme j'étais un peu en. Comme je suis un peu, comment dire, agacé par les excès de la médiation, du marché, d'une certaine bêtise qui tend à ce que tout le monde. Un certain panurgisme, vous voyez, que tout le monde achète la même chose, on parle d'argent, etc., etc. Je me suis dit, je vais tout montrer, tout ce qui se met au mur, enfin presque tout, parce que je n'ai pas tout montré. Et il me fallait un certain courage parce que j'ai aussi montré ce que j'ai acheté il y a 30 ans. C'est-à-dire que finalement des choses que j'aime encore parce que je me renie pas, mais que j'achèterai plus aujourd'hui. Hein. Et ensuite, je me suis dit finalement toutes ces œuvres, le temps d'exposition, seront toutes sur le même plan. Aussi bien culturellement, elles n'auront pas de hiérarchie ni financière, ni artistique, ni de qualité, ni de... Et on a fait travailler un ordinateur. Et on a fait un accrochage totalement aléatoire où il y avait là un Fontana à côté d'un artiste de 25 ans ou de, vous voyez, il y avait une œuvre d'art brut à côté d'une œuvre plus conceptuelle. Donc, et c'était un peu, comment dire, c'était volontairement un peu insolent. C'est pour dire, il y en a marre, quoi. Il y en a marre.
Il faut préciser aussi, Antoine de Galbert, que non seulement les œuvres étaient à côté, mais les unes au-dessus des autres, et que les murs entiers étaient couverts.
Oui, bien sûr, c'était une occupation générale du mur, et un calcul, je ne sais plus comment on dit, logarithmique, je crois. Ou... et donc, on donnait au mur, on donnait, pardon, à l'ordinateur, uniquement les dimensions et les numéros. Et alors, j'avais quand même très très peur, parce qu'on s'est bien amusé, mais j'avais peur de découvrir mon mauvais goût, de découvrir... toutes les bêtises que j'ai pu faire depuis des années et des années. Et puis en fait, ça a marché. Et alors si ça a marché relativement bien, c'est que c'était évidemment la même personne qui avait tout acheté. Et ce lien invisible, il n'est pas toujours justement très... On le cerne difficilement dans l'art d'aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de collectionneurs qui sont dans des postures, ou dans des attitudes de réussite. Voyez.
D'ailleurs, cet accrochage n'était pas... sans rappeler, d'une certaine façon, les accrochages du 19e des musées de province où les tableaux étaient les
autres. Oui, c'est vrai, mais ça, c'était l'accrochage, je crois qu'on appelait ça l'accrochage à l'italienne autrefois, mais néanmoins, on mettait sur un mur 30 paysages, et puis c'était 30 peintures, c'était avec les mêmes cadres dorés, donc il y avait quand même, c'était une manière d'accrocher sa collection, ou les, même, d'ailleurs, ça se fait encore dans certains musées. Vous allez au Louvre, il y a certains murs qui sont comme ça encore.
Quelle est l'unité, puisque vous nous parlez de l'unité de votre collection? C'est vous, mais avec les évolutions dont vous parlez, est-ce que le mur vous a révélé quelque chose de vous-même à vous-même?
Non, j'ai eu peur de me déplaire, enfin, de découvrir que j'étais mauvais. Mais en fait, non, j'aime toujours tout ce que j'ai fait. Et la relation, elle est très intuitive, très intérieure. C'est un voyage personnel et je peux tout expliquer.
Est-ce que c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure de la politique, c'est-à-dire que vous êtes un homme variable et que vous avez aimé certaines choses sans chercher à avoir une...
Non, parce qu'il y a beaucoup d'arts qui sont absents de ce mur. Tout l'art conceptuel, l'art abstrait m'ennuie. C'est quand même extrêmement incarné, c'est très inquiétant. La mort est très présente. Il y a des grands thèmes. Il y a un peu de politique, il y a un peu d'étrange, de folie. Donc il y a une grande cohérence, en fait.
Ça, c'est intéressant. On se marque aussi par ses rejets. Donc, vos rejets à vous, c'est l'abstraction géométrique,
le
c'est le conceptuel.
Le goût est fait de mille dégoûts, c'est ça.
Et donc, quels seraient vos dégoûts qui vous définiraient?
J'aime pas parler de dégoût parce que...
Enfin, vos rejets.
Voilà, j'ai des choses qui m'intéressent pas. Mais l'important, quand on collectionne, c'est d'être sûr qu'on n'a pas nécessairement raison. Vous voyez, on ne collectionne pas. Moi, je suis pas... J'ai été dans des comités d'acquisition publique où là, j'achète pour vous. À ce moment-là, je me remets en retrait. Et j'achète pour vous, je dis telle œuvre doit être présente au musée, même si je l'aime pas, c'est pas mon problème. Dans ma collection, finalement, je roule que pour moi. Oui, il n'y a pas de...
Et est-ce qu'un jour, cette collection, vous la montrerez de manière définitive, quelque part?
J'en sais rien. En fait, là, je donne bientôt, là, je peux le dire, ma collection ethnographique au musée des Confluences. Je fais une donation. Je réorganise beaucoup de choses. Et la collection elle-même, il y en a, vous savez, j'ai presque 3000 œuvres, donc il y a 10 collections dans la collection. Je sais pas du tout ce que ça va devenir, c'est une angoisse. Plus les années passent, plus c'est une angoisse. C'est une angoisse de riche.
Non, pas du tout, c'est une angoisse de transmission aussi, vous êtes dans une
transmission. Mais c'est une vraie angoisse, parce qu'on a envie de donner, on a envie de rendre, enfin, de produire de l'intelligence avec ça, vous voyez. Et c'est pas simple du tout.
J'imagine que vous devez être très courtisé par les...
Bon, plus trop boucle. Ah non, pas les...
Pour que vous donniez vos tableaux.
Non, parce qu'ils savent pas ce que j'ai, et puis... J'ai
comment ils savent pas, vous l'avez montré en partie?
Oui, bon, enfin, j'ai beaucoup d'œuvres d'inconnus, et les musées, ils s'intéressent à l'art que quand ça prend de la valeur. Vous savez que je veux pas critiquer les musées, j'ai plein d'amis directeurs de musées, mais, ils loupent tout. Vous voyez, c'est-à-dire que si vous voulez faire un bon achat, vous regardez ce que le musée achète et vous achetez autre chose, quoi.
Bah écoutez, puisque vous êtes un peu contestataire, j'avais justement les fonctionnaires de la culture qui sont parfois assez conformistes. J'en ai trouvé un exemple qui est l'entrée de Matisse dans les collections publiques en 1954 et il exposait depuis 1896.
Ah oui ? Non, mais il y a des gens qui ont une vision, mais... Mais ceci dit, je dis ça pour un peu provoquer, mais le collectionneur privé aussi, une vie de collection, qu'elle soit publique ou privée, c'est une vie de loupage, de ratage. C'est-à-dire que il y a plus d'artistes que j'ai ratés que d'artistes que j'ai eus au bon moment, que j'ai pu acquérir. Oui,
mais ça compte pas, c'est pas grave.
L'histoire de ma vie, c'est une histoire de ratage. Mais c'est ça qui est génial, c'est pour ça qu'on est collectionneur. Si on avait toujours raison, ça n'aurait aucun intérêt.
Est-ce que vous n'êtes pas d'une modestie ou d'une coquetterie exagérée en me disant ça? Parce qu'évidemment, que tout le monde abandonne
des choses. Non, j'ai des tas d'œuvres qui ne prendront jamais aucune valeur. Et finalement, est-ce que c'est important? Je ne sais pas. Ce que j'ai dit un jour, c'est que dans un texte, je ne sais plus où, je pense que ce qui est important, on ne se trompe pas quand on achète ce qu'on aime. Ce qui est important, on ne se trompe pas si une œuvre ne prend jamais de valeur. On se trompe si on ment, on se trompe si on achète ce qu'on n'est pas. Et donc on se trompe, dans l'art contemporain, il y a beaucoup de gens qui se trompent, beaucoup, beaucoup. Et c'est pour ça que je vais un peu quitter tout ça, parce que ça me fatigue énormément.
C'était Secret professionnel, le 254e. La semaine prochaine, je parlerai du secret professionnel de Marcel Proust, filmé. Réalisation Clotilde Pivin, attachée d'émission Daphné Abgral, prise de son Pierrick Charles, recherche INA Aude Vassan. Dans un instant, une saison au théâtre avec Joël Gaillot.